Chapitre 8. Le monde contemporain. Jean-Marie Gustave Le Clézio. La belle lumière du jour. Tirée de désert.
Dans le ciel, c'est l'heure rouge qui commence, maintenant. Les dernières taches de la nuit disparaissent et la blancheur laiteuse laisse place à l'embrasement de la dernière aube, à l'est, au-dessus des collines de pierre. La mer devient plus sombre, presque violacée, tandis que, au sommet des vagues, s'allument les étincelles de pourpre et que l'écume resplendit, encore plus blanche. Jamais Lala n'a regardé avec autant de force l'arrivée du jour. Les yeux dilatés, douloureux, le visage brûlé par la splendeur de la lumière. C'est le moment où les spasmes deviennent d'un seul coup violents, terribles, et la douleur est semblable à la grande lumière rouge qui aveugle. Pour ne pas crier, Lala mord dans le tissu de sa robe, sur son épaule, et ses deux bras levés au-dessus de sa tête tirent sur la ceinture de toile, si fort que l'arbre bouge et que le corps se soulève. À chaque extrême douleur, en rythme, Lala se suspend à la branche de l'arbre. La sueur coule maintenant sur son visage et l'aveugle. La couleur sanglante de la douleur est devant elle, sur la mer, dans le ciel, dans l'écume de chaque vague qui déferle. Parfois, entre ses dents serrées, un cri s'échappe malgré elle, étouffé par le bruit de la mer. C'est un cri de douleur et de détresse à la fois, à cause de toute cette lumière, de toute cette solitude. L'arbre se plie un peu à chaque secousse, fait miroiter ses larges feuilles. À petites goulées, Lala respire son odeur, l'odeur du sucre et de la sève, et c'est comme une odeur familière qui la rassure et l'apaise. Elle tire sur la maîtresse branche, ses reins cognent le tronc du figuier, les gouttes de rosée continuent à pleuvoir sur ses mains, sur son visage, sur son corps. Il y a même des fourmis noires très petites qui courent le long de ses bras, agrippées à la ceinture, et qui descendent le long de son corps pour s'échapper. Cela dure très longtemps, si longtemps que Lala sent les tendons de ses bras durcis comme des cordes, mais ses doigts sont serrés si fort sur la ceinture de toile que rien ne pourrait les détacher. Puis, tout d'un coup, elle sent que son corps se vide, incroyablement, tandis que ses bras tirent avec violence sur la ceinture. Très lentement, avec des gestes d'aveugle, Lala se laisse glisser en arrière le long de la ceinture de toile. Ses reins et son dos touchent les racines du figuier. L'air entre enfin dans ses poumons et au même instant, elle entend le cri aigu de l'enfant qui commence à pleurer. Sur la plage, la lumière rouge est devenue orange, puis couleur d'or. Le soleil doit déjà toucher les collines de pierre, à l'est, au pays des bergers. Lala tient l'enfant dans ses bras, elle coupe le cordon avec ses dents, et elle le noue comme une ceinture autour du ventre, minuscule, secoué de pleurs. Très lentement, elle rampe sur le sable dur vers la mer. Elle s'agenouille dans l'écume légère, et elle plonge l'enfant, qui hurle dans l'eau salée. Elle le baigne et le lave avec soin. Puis elle retourne vers l'arbre, elle pose le bébé dans le grand manteau marron. Avec les mêmes gestes instinctifs qu'elle ne comprend pas, elle creuse avec ses mains dans le sable, près des racines du figuier, et elle enterre le placenta. Puis elle s'allonge enfin au pied de l'arbre, la tête tout près du tronc si fort. Elle ouvre le manteau, elle prend le bébé dans ses bras et elle l'approche de ses seins gonflés. Quand l'enfant commence à téter, son visage minuscule, aux yeux fermés, appuyés sur son sein, Lala cesse de résister à la fatigue. Elle regarde un instant la belle lumière du jour qui commence, et la mer si bleue, aux vagues obliques, pareilles à des animaux qui courent. Ses yeux se ferment. Elle ne dort pas, mais c'est comme si elle flottait à la surface des eaux, longuement. Elle sent contre elle le petit être chaud qui se presse contre sa poitrine, qui veut vivre, qui suce goulûment son lait. Hawa, fille de Hawa, pense Lala, une seule fois, parce que cela est drôle et lui fait du bien, comme un sourire après tant de souffrance. Puis elle attend, sans impatience, que vienne quelqu'un de la cité des planches et du papier goudronné, un jeune garçon pêcheur de crabes, une vieille à la chasse au bois mort, ou bien une petite fille qui aime simplement se promener sur les dunes pour regarder les oiseaux de mer. Ici, il finit toujours par venir quelqu'un, et l'ombre du figuier est bien douce et fraîche.